Chers frères et sœurs, notre espérance qui dépasse infiniment tous nos rêves, nos espoirs, qui transcende nos inquiétudes, qui transcende ces peurs qui nous taraudent, notre espérance est en Dieu. C'est de lui que nous recevons ce matin encore la grâce, la joie, la paix en abondance, au cœur même de notre existence. Voilà ce que nous célébrons ce dimanche matin, et je vous invite à prendre votre recueil de chants au psaume 81, ce psaume qui ponctuera notre liturgie. Au psaume 81, pour l'instant, nous chantons la première strophe. Levons-nous pour chanter Dieu. Éternel, notre Dieu, c'est effectivement de toi que nous recevons l'espérance dans ce monde troublé, dans ces temps d'inquiétude et parfois d'épouvante. C'est de toi que nous recevons le secours au milieu des épreuves, au milieu des afflictions. C'est de toi que nous recevons l'amour au cœur des divisions, des situations d'indifférence ou d'hostilité, parce que tu es le Dieu qui aime. Tu es le Dieu qui aime inconditionnellement. Et tu es le Dieu qui donne à l'humanité les paroles nécessaires pour lutter, jour après jour, contre toutes les formes d'anéantissement. Alors nous te rendons grâce, nous te bénissons, Dieu notre Père. Amen. Et poursuivons notre louange par le chant du psaume 116. Au psaume 116, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenons place, nous reprendrons ensuite le psaume 81. Et après avoir chanté cet amour de Dieu, nous pouvons nous recueillir dans la prière avec ce sentiment de confiance nécessaire pour nous exprimer en vérité et exprimer la vérité de notre existence, de notre condition. Seigneur, nous voulons te prier pour nous tenir devant toi en toute lumière, en toute vérité, en toute sincérité. Voici nos erreurs. Sois notre vérité. Voici nos errements. Sois notre horizon. Voici notre faiblesse. Sois notre dynamisme. Voici notre péché. Sois notre pardon. Voici notre angoisse. Sois notre paix. Voici notre faim. Sois notre véritable pain. Voici notre orgueil. Et sois notre humilité. Voici nos ténèbres. Sois notre lumière. Voici notre nuit obscure. Sois notre étoile. Nous t'en prions. Pour chacun de nous. Sois notre sauveur pour l'éternité. Amen. Restons assis pour chanter la troisième strophe du psaume 81. La délivrance de Dieu, nous pouvons l'entendre à travers ces paroles du prophète Ésaïe. Ésaïe qui dit ceci au peuple, « Venez, dit le Seigneur, si votre péché est comme l'écarlate, il deviendra blanc comme la neige. S'il est rouge, comme la pourpre, il deviendra comme la laine. » Voilà, frères et sœurs, des paroles qui disent que non seulement Dieu n'est pas indifférent à notre situation, mais qu'avec Dieu et prier Dieu change les choses, change notre regard sur le monde, parce que cela change notre conscience, cela change notre cœur, cela change le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et nous pouvons passer de cette situation où nous ne nous voyons que comme pécheurs, ou limité, insuffisant, à une personne pardonnée, capable de certains accomplissements. Alors, levons-nous pour chanter notre reconnaissance avec la quatrième strophe du psaume 81. Et c'est parce que nous sommes des êtres pardonnés par Dieu qui nous révèle que nous sommes effectivement capables de certains accomplissements, que retentissent régulièrement dans les textes de la Bible des paroles qui sont des paroles de loi au sens de ce que Dieu nous rend capables de faire. Plutôt que de les prendre comme des paroles moralisatrices, entendons-les comme des promesses, comme des paroles qui nous ouvrent un horizon d'action et d'engagement. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre ces versets de l'épître de Paul aux Éphésiens qui parlent de Jésus, comme un éclaireur pour notre propre vie, peut-être. L'apôtre dit ceci: ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Et notre façon de répondre oui à ces paroles, c'est d'exprimer notre foi. Et ce matin, je vous propose de dire notre foi en ces termes. Nous croyons en Jésus le Christ, le Fils unique de Dieu, qui a été homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Par sa mort et sa résurrection, nous croyons qu'il nous a donné la victoire sur la mort et l'assurance de notre propre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu le Père, qui nous prend pour ses fils et ses filles, et nous aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit, et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole. Il nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés par Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Chantons cela par le chant du cantique 544. Au cantique 544, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Asseyons-nous et nous reprendrons ensuite le psaume 81 pour la dernière fois. Avant de lire la Bible, nous prions Dieu. Dieu notre Père, tu viens à nous dans la nouveauté et nous sommes là avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité, Et nous sommes pétris d'illusions, de fausses certitudes. Alors nous voulons nous ouvrir à toi, Seigneur, à ce chemin que tu nous ouvres. Il nous conduit vers toi pour vivre l'amour qui défie les siècles, qui défie nos enfermements, qui défie nos dogmatismes. Fais-nous maintenant la grâce de l'inattendu de ton évangile. Amen. C'est dans l'Épître aux Romains que je vous propose ce matin quelques versets. Au chapitre 8, je vais vous lire les versets 18 à 27. L'apôtre écrit ceci. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Seigneur, ta grâce est pour nous semence de vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Quant à nous, chantons la 7e strophe du psaume 81. Chers frères et sœurs, je n'ai pas retenu ce texte biblique ce matin pour passer un peu de baume sur notre situation. Ce n'est pas parce qu'il y a effectivement cette idée selon laquelle il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire à venir. Vous voyez, ce serait un peu une sorte d'opium du peuple, cela. Non, c'est parce que je trouve qu'il y a une sorte de malentendu qui traîne bien souvent dans notre esprit, dans l'esprit de nos contemporains, une sorte de confusion que j'aimerais peut-être dissiper, une confusion entre le terme « athée », sans Dieu, « athée », et non affilié à une religion particulière. Or, il me semble qu'il est non seulement possible d'être croyant sans être affilié à une religion particulière, mais qu'il est aussi tout à fait possible d'être le membre d'une communauté religieuse sans être en vérité vraiment croyant. Il est possible d'être croyant sans être affilié à une religion particulière parce que Dieu est infiniment supérieur à toutes les religions. De même qu'il est possible d'adhérer à une communauté religieuse et de participer à ses activités avec sincérité, tout en étant véritablement athée, parce que la religion est d'abord un espace de socialisation. Être athée, ce n'est pas être en dehors de l'Église ou lui être hostile. De même qu'être croyant, ce n'est pas être membre d'une Église, par exemple. Et c'est cela que j'aimerais examiner avec vous à partir de la réflexion de l'apôtre Paul et en explorant trois aspects de notre vie. L'identité personnelle, ce qu'on appelle en religion la sainteté, et puis la prière. Notre identité, identité individuelle, est le premier aspect sur lequel nous pouvons distinguer une perspective athée d'une perspective que j'appellerais christique, c'est-à-dire qui se réfère au Christ, Dieu incarné concrètement dans l'histoire humaine, donc en nous par exemple. Ce que l'identité athée récuse, c'est que Dieu prenne une part dans notre identité, puisque Dieu ne fait partie d'aucune équation humaine. Et de ce fait, l'identité athée ne se fonde pas dans l'altérité, mais dans la similarité. Si Dieu désigne l'altérité, refuser Dieu, c'est refuser l'altérité. Il nous reste donc la similarité. Cela signifie que sur le plan de l'identité, nous sommes la suite logique de nos parents, la suite quasiment au sens mathématique du terme, qu'elle soit géométrique ou arithmétique. On peut prédire quel sera l'élément suivant de la suite. Aucune inconnue, aucune indétermination. Nous sommes dans la similitude. Nous sommes la suite logique de nos parents. Aucun travail besogneux de l'Esprit, du Saint-Esprit, qui par exemple avait couvert Marie de son ombre, Marie la mère de Jésus. Ce qui est une manière de dire que la grossesse de Marie n'était pas une sorte d'auto-engendrement et que justement Marie n'avait pas fait un bébé toute seule, ni que le bébé à venir, Jésus, ne pourrait être considéré comme auto-fondé, c'est-à-dire ne dépendant que de lui seul ou de son environnement biologique. Il y avait une part étrangère qui intervient dans cet enfantement. L'idée selon laquelle nous ne sommes pas que le pur produit de nos parents. Et à la limite, que nous ne sommes pas que le pur produit de ce qu'on appelle nos déterminismes sociaux ou culturels. Le Saint-Esprit, c'est l'interaction entre Dieu et les hommes. C'est tout ce qui, dans notre vie, est une relation interpersonnelle entre des êtres différents qui s'engagent de tout leur être dans une relation qu'ils tissent patiemment et qui conserve les fils de chaque membre qui vient constituer le tissu final. Et donc, le tissu final n'est pas simplement l'addition de tous les fils, parce que en se conjuguant, tous ces fils forment un quelque chose qui n'aurait jamais existé par la seule juxtaposition de tous. Autrement dit, pour le dire de façon un peu mathématique, 1 plus 1 est supérieur à 2. C'est ça la théologie. Ce que l'apôtre Paul rappelle quand il dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car c'est bien cela dont il est question dans ce passage de l'apôtre Paul, quand il dit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, c'est parce que nous ne sommes pas suffisants. Nous ne nous suffisons pas pour être bien vivants, ni pour savoir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul continue en disant que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Seuls, nous sommes ignares, pas de science infuse. Et nous sommes bien inférieurs en humanité à ce que nous pouvons être lorsque nous sommes ouverts à ce que Dieu désigne. Et c'est ce que nous avons entendu dans l'Épître aux Philippiens, lorsque l'apôtre Paul nous disait « Considère l'autre comme infiniment supérieur à toi-même ». Non pas par modestie, non pas pour se flageller, non pas pour considérer que nous sommes vraiment nuls comparés aux autres, mais pour prendre conscience que l'autre est un véritable vecteur d'enrichissement pour nous. Et que c'est le regard de l'autre qui nous permet de faire grandir notre humanité personnelle. Nous le voyons bien dès le début de la Bible, dans le livre de la Genèse, avec cet épisode formidablement intéressant qui met en scène Caïn et Abel. Caïn ne supporte pas que Dieu ait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et comme il n'a pas les mots pour dire sa colère, il le tue. Et il est comme accablé. Et il ne regarde plus que lui-même. Et Dieu intervient pour lui dire « Mais pourquoi es-tu irrité comme cela ? Pourquoi es-tu accablé ?» Caïn qui est en train de se refermer sur lui-même, qui est en train de se recentrer sur lui-même et qui du coup ne voit plus personne d'autre que lui-même. Et ce que Dieu fait, ce n'est pas de le punir, ce n'est pas de le condamner aux gémonies, de l'envoyer en enfer, c'est de lui dire « Je vais relever ton visage ». Car c'est en relevant le visage de celui qui se sent coupable, et qui l'est bien souvent, ou de celui qui se sent avec un mal-être profond, c'est en relevant son visage qu'il est en mesure de voir le visage du frère, de la sœur, et de pouvoir regagner en humanité, en estime de soi, pour autant que le regard de l'autre soit un peu aimant. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt à nous regarder mutuellement comme infiniment supérieurs les uns les autres. Se priver de Dieu, être sans Dieu, être athée, c'est se satisfaire de ce qu'on est. C'est finalement retirer l'altérité de notre équation personnelle. Et c'est considérer que l'homme est la mesure de l'homme. L'identité christique, elle, nous fait passer de métamorphose en métamorphose. Elle nous accueille avec notre constitution biologique. Nous sommes des êtres biologiques. En grec, c'est le bios. Et bien souvent, il est question du bios dans les textes bibliques. Puis, elle donne du mouvement à notre vie. Et nous devenons un être ayant une vie animée, Zoé. Et bien souvent, il est question de Zoé dans les textes de la Bible. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes en mesure de découvrir une autre dimension. Fils et filles de Dieu, comme au verset 21. C'est une dimension supplémentaire de notre vie. Nous ne sommes pas que des êtres biologiques, nous ne sommes pas que des êtres animés, nous sommes aussi des êtres tendus vers autrui, vers un idéal de vie. Et ça, en grec, c'est psyché, c'est l'âme, c'est aussi le psychisme. Vous voyez, le psychisme, c'est le fait que nous avons un univers intérieur qui fait qu'au fond du fond, nous sommes beaucoup plus grands que notre corps. L'homme, dans cette perspective, l'homme n'est plus la mesure de l'homme. Et vous voyez combien il y a de gens hors des religions qui ont bien conscience que notre identité est bien plus grande que notre corps physique. Et il n'est pas rare que dans nos assemblées, il y ait des personnes qui considèrent que tout se résume à ce corps et que tout doit être considéré en fonction de notre plaisir personnel. Je dirais une vision un peu hédoniste, étroite. L'hédonisme n'est pas à rejeter, sauf quand l'hédonisme est frappé de l'égocentrisme. Le plaisir n'est pas à rejeter, sauf quand il est le seul critère pour qualifier une vie bonne, et en l'occurrence, notre bon plaisir. Le plaisir de l'autre, s'il contribue à notre plaisir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la perspective christique. Et cela me conduit au deuxième point, celui de la sainteté, la gloire aussi, dont il est question dans ce passage biblique. La sainteté, on peut dire que c'est ce que vise la vie chrétienne. Mais encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la sainteté et la gloire, car c'est là qu'il y a souvent de graves malentendus. La sainteté, malheureusement, se mesure souvent par la quantité et par l'extériorité. Il y a une sainteté qu'on essaie d'obtenir à grand renfort d'actes méritoires, d'engagements bénévoles et d'œuvres par lesquelles on espère bien attirer l'attention sur soi. L'attention de Dieu peut-être, plus sûrement l'attention des autres. Et c'est le cas de tous ces hypocrites dont parle Jésus dans l'évangile de Matthieu, qui prient debout dans les synagogues, peut-être qui font des gestes un peu exubérants, et qui se tiennent aussi debout au coin des rues pour se faire voir des hommes. L'admiration des autres est alors la récompense qu'ils obtiennent, dixit Jésus. Mais est-ce cela la sainteté ? Est-ce la sainteté que Jésus a incarnée en se dépouillant de lui-même et en prenant la condition de serviteur, comme on le lit dans l'Épître aux Philippiens par ailleurs ? La sainteté qui est recherchée sans passer par Dieu, la recherche de sainteté sans Dieu, autrement dit athée, c'est souvent la recherche de la gloire au sens du scintillement aux yeux de nos contemporains. Et cela n'a rien de commun avec ce qui caractérise la gloire de Dieu, qui est caractérisée par la gratuité et par l'universalité. La recherche de sainteté intéressée par la gloire qu'on tirera et dont le bénéfice sera pour notre seule pomme, ce n'est pas véritablement la perspective christique. C'est plutôt un calcul narcissique fondé sur la logique du donnant-donnant au lieu d'une logique christique qui est fondée sur la logique du don, de la grâce. La gloire à venir dont parle l'apôtre Paul ne doit rien à nos gesticulations, mais tout à notre ouverture d'esprit, à notre humilité, à notre disponibilité vis-à-vis de ce qui vient et qui ne dépend pas de nous seulement. Le fait même que ce soit l'espérance qui nous guide vers cette gloire à venir, l'espérance dont Paul précise qu'elle ne concerne jamais des choses que nous voyons, sans quoi ce n'est plus d'espérance dont il est question. Eh bien, cela montre bien que la gloire à venir n'est pas celle que nous aurons essayé de produire par nos propres forces, par nos stratégies personnelles, sans quoi nous l'aurions déjà sous les yeux. Ce serait quelque chose que nous maîtriserions et qui ne serait qu'une production personnelle, quelque chose à notre mesure. La gloire à venir nous est étrangère. Elle n'est pas notre production, même collectivement, même en Église. Nous ne pouvons pas nous en vanter. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Nous n'y sommes pour rien, en fait. La gloire qui vient, c'est Dieu lui-même, présent dans notre vie, à l'œuvre dans notre histoire, par sa seule initiative et non la nôtre. Vous savez, cela reprend un peu ce petit passage qui est coincé juste après les 10 paroles dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Cette loi sur l'autel que nous ne lisons jamais parce que on n'a pas d'autel, nous, en protestantisme. Alors on dit que ça ne nous concerne pas. Mais c'est intéressant parce que cette loi sur l'autel où avait lieu le sacrifice précise que Ce n'est pas le prêtre qui invoque le nom du Seigneur pour que Dieu soit présent. Ce texte dit que c'est Dieu lui-même qui invoque son nom et qui se rend présent, indépendamment de nos supplications et donc de nos gesticulations. La gloire qui vient, c'est Dieu lui-même présent dans notre vie à son initiative. Dieu, à l'œuvre dans notre histoire, en mesure d'opérer la rédemption de notre corps, de notre vie, c'est-à-dire la remise sur pied de notre existence chancelante, pas souvent très glorieuse, justement au sens de pas très ouverte sur Dieu, parce que nous ne comptons que trop souvent sur nous-mêmes. La sainteté christique consiste justement à abandonner toute quête de gloire. La sainteté christique consiste à abandonner le projet de vouloir sauver soi-même sa vie. Car selon la prédication de Jésus, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais, ajoute-t-il, qui la perdra à cause de Jésus la trouvera. Par conséquent, ce n'est pas un activisme que nous sommes appelés. Ce n'est pas un activisme que nous conduit la vie chrétienne, ni d'ailleurs à une éthique, encore moins une morale, mais à une attente. C'est le terme employé par l'apôtre Paul. Et une attente persévérante, précise-t-il un peu plus loin. Autrement dit, une attente faite d'endurance. Mais pas une attente passive, pas attendre que les choses tombent tout cuites dans notre assiette. C'est une attente pleine de désir. C'est une attente attentive, prête à saisir le moment opportun où de la grâce est disponible pour nous. Une attente qui repère les signes de la venue du royaume de Dieu dans notre vie et qui encourage tout ce qui va dans le sens de ces contractions qui permettront l'accouchement du ciel nouveau et de la terre nouvelle qui nous sont promis. Je ne suis pas un grand spécialiste en obstétrique, mais après 3 grossesses, je sais à quel point il ne faut pas retenir les contractions. Sinon, ça fait mal et ça ne marche pas. Il faut s'ouvrir à ces contractions qui font tout le travail nécessaire pour l'ouverture du col de l'utérus et pour la libération de cet univers à venir qu'est l'enfant. Quelle belle métaphore quand on y pense. Nous qui sommes si souvent arc-boutés sur une vision rétrograde de l'Église ou conservatrice de la vie. Nous voulons conserver la vie comme, là aussi c'est une expérience personnelle, ces futures mères qui quelques heures avant l'accouchement disent « Non, je ne veux plus accoucher. Je le garde pour moi en quelque sorte. » L'apôtre Paul a tellement vu juste dans cette métaphore des contractions de l'accouchement. Eh bien, une vision athée a tendance à dire « Nous avons tout en nous et on va garder cela, ça nous suffira bien. » La vision christique, c'est que nous avons besoin de lâcher quelque chose, ou plus exactement, de ne pas prendre prise sur ce qui empêchera la venue de ce qui peut venir. L'attente active, parce que nous sommes pressés par l'Esprit de Dieu de nous ouvrir à toutes les occasions de grâce qui se présentent pour aller dans leur sens. Au fond, je devrais arrêter de dire de saisir les occasions de grâce, parce que le fait de saisir, c'est déjà l'arrêter un peu ou la freiner. Il faudrait mieux imaginer de s'inscrire dans ce flux du dynamisme créateur de Dieu et prendre notre mouvement avec et concourir à ce dynamisme créateur de Dieu. Coopérer, comme le dira par ailleurs l'apôtre Paul. Non pas agir, voyez-vous, pour être bien vu et obtenir la première place dans les assemblées, mais bien voir et faire en soi la première place à Dieu pour agir selon son espérance. Voilà la distinction majeure entre la sainteté athée et la sainteté christique. On renverse l'action, non pas agir pour être bien vu, mais bien voir pour bien agir. Non pas agir pour obtenir la première place, mais donner la première place à Dieu pour bien agir. J'aimerais, pour ce troisième point que je vais aborder, la question de la prière, tout d'abord présenter éventuellement mes excuses si, en dépit des quelques mots introductifs que j'ai prononcés pour montrer la ligne de partage entre athéisme et, disons, le fidéisme, ce qui relève de la foi, j'ai pu laisser imaginer que la différence ne se joue pas vraiment entre ceux qui sont affiliés à une religion et ceux qui ne le sont pas. Ou plus exactement, que j'aurais entretenu cette confusion entre l'athéisme et le fait d'être affilié ou non à une religion. Alors, pour lever ce malentendu, la question de la prière va nous permettre de bien considérer que l'athéisme est une attitude bien présente dans l'Église, par exemple, et par contre-coup, nous pourrons en déduire que le fidéisme n'est pas absent en dehors des institutions ecclésiales, y compris chez ceux qui revendiquent ostensiblement un athéisme militant, et qui sont finalement, bien souvent, quand on discute avec eux, athées des mêmes divinités que nous, c'est-à-dire athées des idoles que certains vénèrent et qui sont pour nous aussi des épouvantails. Bien souvent, lorsque nous discutons honnêtement avec des personnes qui se revendiquent athées, nous constatons que ce qu'elles détestent dans la religion, c'est aussi ce que nous détestons depuis la Réforme. Et les images épouvantables de Dieu qu'elles ont dans la tête sont justement des images que depuis la Réforme, nous rejetons au loin comme inadaptées et inappropriées à ce que le Christ Jésus révèle de Dieu. Alors, pour dire cela d'une manière un peu trop tranchée pour être juste, je dirais qu'au sujet de la prière, la différence se joue de la manière suivante. La prière athée demande, la prière christique écoute. Ne retenez que cela de ce matin, après tout, ça pourrait bien suffire. La prière athée demande à Dieu de faire ce que les hommes devraient faire. La prière athée demande des miracles pour la paix au Moyen-Orient, ce qui laisse entendre que Dieu pourrait établir la paix au Moyen-Orient, mais qu'il ne le fait pas. Autrement dit, qu'il est le véritable coupable des massacres, des injustices diverses, puisqu'on lui demande d'intervenir enfin pour que le malheur cesse. Quand on y pense, les prières de demande qui adressent à Dieu la liste de nos envies, aussi justes soient nos envies, renvoient à Dieu la responsabilité du malheur des hommes, alors que les véritables coupables, c'est nous qui ne vivons pas selon la liberté des enfants de Dieu, ces enfants qui développent leur existence avec un sens aigu de la responsabilité, car c'est la vie de leurs frères, de leurs sœurs et leur propre vie qui est à chaque fois en jeu. Au fond, la prière athée, c'est la prière qui considère que Dieu est un obstacle au bonheur et qu'il faut donc convaincre Dieu de devenir bon. Enfin. Comme le disait Pierre-Joseph Proudhon, l'homme devient athée lorsqu'il se sent meilleur que son Dieu. Eh bien, force est de constater que bien des prières, y compris les miennes, sont athées. Ces prières par lesquelles nous disons à Dieu qu'il serait temps d'être juste, qu'il serait temps d'être miséricordieux, qu'il serait temps d'être généreux. La prière christique, quant à elle, ne récuse pas la demande. Dans le jardin des Oliviers, juste avant d'être arrêté, Jésus lui-même demande à Dieu d'éloigner la coupe, c'est-à-dire l'horreur à venir. Mais la prière christique inclut aussi l'écoute. Et c'est d'ailleurs vers cette écoute que conduit la prière christique de Jésus, qui continue sa prière en disant « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La prière athée, elle, sait ce qui est bon. Elle sait ce qui est juste. Elle sait ce qui doit arriver. Moi, je ne sais pas tout ça. Et on se demande bien pourquoi cette prière athée est finalement formulée. Sinon, parce qu'elle se réfère finalement à une vision superstitieuse de la vie, de l'histoire, qui ne pourrait avancer que par des coups de baguette magique. Eh bien, contre cela, contre cette vision un peu superstitieuse de la vie, moi je pense à cette réplique du regretté comédien Jean-Pierre Bacri, qui, entendant l'animateur du Burger Quiz Alain Chabat dire « Si vous voulez gagner 1000 euros », l'interrompt en disant « Allez travailler ». Si vous voulez gagner 1000 euros, dit l'animateur, et Jean-Pierre Bacri l'interrompt en disant « Eh bien, allez travailler ». Voilà comment ça marche, la vie, en fait. La prière christique, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle ne sait pas ce qu'il faut dire, elle ne sait pas ce qu'il faut penser. Et soyons honnêtes, nous ne savons pas comment faire pour que le royaume de Dieu advienne. La prière christique s'en remet donc à l'Esprit qui vient au secours de notre faiblesse, de notre non-savoir, de notre agnosticisme. Le véritable croyant est agnostique, il ne sait pas. Et elle le fait, l'Esprit le fait, en intercédant par des soupirs, c'est-à-dire des souffles qui nous portent un peu plus loin que nos actuels centres d'intérêt, un peu plus loin que notre actuel centre de gravité, un peu plus loin que nos vaines certitudes, un peu plus loin que notre zone de confort, un peu plus loin que ce que nous connaissons par cœur, ce que nous avons vu, ce que nous maîtrisons et qui, du coup, ne relève pas de l'espérance. Et c'est ainsi que l'Esprit intercède en faveur des saints, dit l'apôtre Paul. La prière christique consiste à se mettre à l'écoute de l'appel divin. Elle consiste à se lancer dans la vie de manière humble et enthousiaste. C'est-à-dire, non pas en campant sur ses positions, en étant imbu de soi-même, mais en étant attentif à l'espérance que Dieu forme et qui est toujours au-delà de ce que nous pensons et croyons. Toujours. Amen. Thank you. Je vous propose de chanter le cantique 611, les trois strophes, avec la troisième qui parle de Dieu, notre impatience, autre façon de parler de l'attente persévérante. Levons-nous pour chanter ces trois strophes du cantique 611. Prenons place. Je serais presque tenté de recommencer une autre prédication, mais je voudrais juste pointer dans la deuxième strophe ces trois versets qui me semblent tellement décisifs. Mon orgueil redoute de laisser ta route traverser ma nuit. Je crois que c'est ça tout le sens de la spiritualité chrétienne. Vous voyez, on dit souvent il faut lâcher prise. Pas sûr que ce soit bien ça. Par contre, il ne faut pas que notre orgueil ait prise sur nous. Et au fond, toute la difficulté, c'est de ne pas se faire prendre par l'orgueil et d'accepter que la route de Dieu nous conduise vers un au-delà de ce qui nous fait mal. Vous savez, des fois, on est tellement familier de ce qui nous fait mal qu'on n'a pas envie de s'en défaire. On est finalement habitué à nos mauvais moments, à nos moments un peu de déprime. Et bien, toute la difficulté, c'est d'accepter cette altérité. Bien. De l'altérité, il peut en être question de bien des manières différentes. Et puisque c'est le temps des annonces, une petite annonce. Il y a une institution à Montpellier qui nous tient à cœur, c'est le foyer des jeunes travailleurs. Il y a ici des personnes qui ont été engagées, qui le sont encore, dans cet multi-espace qui offre aux jeunes travailleurs et aux jeunes de façon générale qui sont un peu perdus ou en état de nécessité, les moyens nécessaires pour reprendre de pied dans leur vie et de pouvoir devenir des adultes majeurs au sens kantien du terme, c'est-à-dire capables de faire leur propre choix. Il y a pour cela notamment du soutien par rapport à l'acquisition de la langue française. Les conditions sanitaires actuelles font que bien des personnes engagées dans cela et qui sont d'un âge tout à fait respectable préfèrent s'abstenir pour se préserver d'un risque de contamination. Cela signifie que nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour l'apprentissage et le soutien de l'acquisition de la langue française pour ces jeunes qui ont évidemment besoin avant toute chose de bien se faire comprendre et plus encore de bien comprendre ce qu'on leur dit. Sinon, on est perdu dans la vie. Donc peut-être que le plus simple est de s'adresser aux personnes qui sont engagées dans le Fruit des jeunes travailleurs. Il y a Eva, il y a Hélène, peut-être qu'il y en a-t-il d'autres. On peut aussi s'adresser à moi. Si vous souhaitez, ça se passe à la résidence Occitanie en particulier. Tous détails vous seront donnés par nous-mêmes. C'est vraiment un engagement extrêmement précieux et urgent en fait. Voilà, il y a d'autres façons de rendre service. N'hésitez pas à me demander ou à me dire que vous êtes disponible. On trouvera de quoi vous embaucher. Nos activités sont toujours un peu en suspens en dehors de notre culte dominical, dont rendez-vous ici même dimanche prochain à 10h30. Pour l'heure, c'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, c'est l'occasion pour nous d'avoir aussi un geste de gratitude qui permet de prendre conscience que l'Église a aussi besoin de nous, car il n'y a pas de coup de baguette magique qui font que l'Église se tient là, sur la terre des vivants, pour assumer ses responsabilités. Unissons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous ne savons pas que te demander, que dire dans notre prière. Alors viens toi-même au secours de notre faiblesse. Et nous commençons par prendre le temps d'un silence religieux, au sens de cette religion qui est une relecture de notre vie. Le temps du silence religieux pour relire dans notre vie les signes de ta grâce, les signes annonciateurs de ton règne, pour que nous ayons à cœur de tendre vers ce règne qui surgit. Seigneur, c'est toi qui peux rassasier notre désir. Que cela nous inspire le don du pain spirituel et matériel à tous ceux qui ont faim. Seigneur, tu es notre puissance, notre dynamisme. « Et c'est pourquoi nous voulons nous ouvrir à la faiblesse de celles et ceux que nous rencontrons pour leur offrir ce dynamisme qui les rendra forts dans leur faiblesse. Toi dont la grâce suffit. Éternel, tu es la vérité. Alors nous voulons nous mettre à ton école pour susciter le goût de la vérité chez celles et ceux qui se contentent des illusions, des rumeurs, des inepties. Seigneur, tu es la source de toute espérance. Alors nous essayons et nous voulons essayer de ne pas donner prise à nos seules constructions, nos seules idéologies, mais à nous ouvrir à ton espérance qui nous révèle ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous attire vers ce qui est infiniment désirable. Seigneur, tu es l'amour. Et c'est de cet amour que nous voulons être animés, pour que s'instaure autour de nous ta paix, une paix sans condition, sans réserve, sans humiliation, une paix qui rend possible cet idéal de fraternité. Et nous rassemblons toutes nos intentions de prière, toutes nos suppliques, tous nos soupirs, dans les mots que Jésus a laissés à ses disciples, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Frères et sœurs, levons-nous pour recevoir la bénédiction. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu que nous ne voyons pas car elle nous est promise par l'espérance. La paix de Dieu que nous ne connaissons pas encore, que nous ne maîtrisons pas, car elle est au-delà de nos désirs secrets. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voici, l'Éternel est avec nous. Amen. Bénissons Dieu par le chant du psaume 67. Au psaume 67, chantons les strophes 1 et 2.